France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Quelles sont les nouvelles avancées sur le jeûne à visée préventive et thérapeutique? En 2014, l'INSERM indiquait qu'aucune donnée clinique reposant sur les essais méthodologiques rigoureux ne pouvait étayer les bénéfices supposés de cette pratique. Pourtant, en France et à l'étranger, des études sérieuses montrent les effets positifs du jeûne encadré médicalement sur des maladies comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les douleurs articulaires ou la stéatose hépatique. Pourquoi le corps médical français oppose-t-il des résistances au jeûne à visée thérapeutique et préventif? Quelle est sa réelle dangerosité? Quelles sont les contre-indications? Et quels sont les espoirs de recherche? Éléments de réponse ce matin, vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
Le Saint-Père, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Maintenant, la mode, c'est le jeûne.
A trendy new weight loss method has been getting a lot of
serions-nous dessinés par l'évolution pour jeûner? Renouer avec cette capacité aurait-il des effets bénéfiques sur notre santé? Simple effet de mode, sans fondement scientifique, voire dangereux, ou vraie solution pour soulager et guérir des maux créés par notre mode de vie. Depuis une dizaine d'années, des chercheurs de plus en plus nombreux explorent les effets thérapeutiques du jeûne et révèlent des mécanismes inédits du fonctionnement du corps humain. Ils s'attaquent aux maladies chroniques, compensées irréversibles, repoussent les limites du vieillissement et révolutionnent la conception de nos rythmes de vie.
Ces 10 dernières années, grâce à de nombreuses études cliniques randomisées, on a vu plus de progrès dans la recherche sur le jeûne que probablement au cours des 2000 dernières années.
Extrait du documentaire Le Jeûne, enquête sur un phénomène qui sera diffusé sur Arte à 22h25 samedi prochain. Bonjour Sylvie Gillemand.
Bonjour.
Bonjour Thierry de Lestrade.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et réalisateur de ce nouveau documentaire consacré donc aux jeunes. En 2013, vous aviez réalisé Le Jeûne, une nouvelle thérapie, immense succès sur Arte à l'époque. Et votre nouveau documentaire est accompagné d'une édition revue et augmentée d'un livre publié à la Découverte et chez Arte Éditions, Le Jeûne, une nouvelle voie thérapeutique. Avec nous également Yvon Lemao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éco-physiologiste à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences, et vous êtes le conseiller scientifique de ce documentaire. Alors, le jeûne existe dans de nombreuses religions et traditions spirituelles ou philosophiques, mais qu'est-ce que le jeûne d'un point de vue scientifique, Yvon Lemao ?
Le jeûne, c'est une adaptation tout à fait remarquable aux périodes de restrictions alimentaires. Et la plupart des animaux, d'ailleurs, accumulent des réserves avant cette période difficile et ont développé des mécanismes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces mécanismes, ils sont les mêmes chez les oiseaux, les mammifères et donc chez l'homme.
Alors, qu'est-ce que le jeûne à visée thérapeutique ou préventive, Sylvie Gillemand ?
Eh bien, c'est justement de mettre son corps au repos pendant une durée qui varie, hein, selon la durée du jeûne. On va mobiliser justement ces mécanismes d'adaptation vont se mettre en route. Le switch métabolique, peut-être on développera, l'autophagie.
Tiens, donc, c'est quoi d'abord le switch métabolique? Parce qu'on va utiliser des termes que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas.
C'est-à-dire que l'organisme, il va se mettre à utiliser, ça va prendre un certain temps, ses réserves de graisse.
Vigilamment donc sur...
Voilà, c'est-à-dire qu'on va le corps, une fois qu'il n'y a plus de sucre, un carburant essentiel pour fonctionner, va se mettre à fabriquer un nouveau carburant, un super carburant, les cétones. Et les chercheurs ont découvert récemment, et ce qu'on montre dans ce deuxième film, on ne l'avait pas montré dans le premier, qu'ils ont des propriétés anti-inflammatoires. On est en train de découvrir des vertus extraordinaires à ces fameux cétones, ce carburant de substitution.
Thierry de Lestrade.
Oui, je crois qu'il faut préciser ce qu'est le jeûne.
En fait,
le jeûne, c'est la privation de nourriture extérieure. Mais en fait, pendant un jeûne, on continue à s'alimenter. C'est assez contre-intuitif. On pense que le jeûne, on ne s'alimente plus. Mais en fait, on s'alimente de nos propres réserves. Et le jeûne, d'une certaine manière, soulève une question qu'on s'est tous posée à un moment donné dans notre vie. C'est pourquoi est-ce que je prends du poids ? Voilà. Pourquoi est-ce que je prends du poids? C'est parce qu'est-ce que je mange trop? Non, c'est parce que l'évolution nous a dessinés pour faire des réserves. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on aurait pu penser que l'organisme, quand on mange trop, élimine le surplus. Mais non, l'évolution nous a dessinés pour faire stocker, et avec ce stock, cette alimentation en réserve, un peu notre frigo portatif que l'on porte sur nous pendant des millénaires, faire face à des périodes de famine et de disette. Et cette faculté a permis à l'homme, à l'être humain, de survivre pendant toutes ces milliers d'années.
Tiens, prenons l'exemple, puisque vous êtes un spécialiste mondial des manchots, Yvan Le Mao. Vous avez mené des recherches sur la restriction calorique prolongée sur les manchots. Que se passe-t-il quand, pendant une centaine de jours, ces animaux cessent de s'alimenter? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physiologique?
Alors, très rapidement, ils vont mobiliser leur sucre, leurs réserves de sucre qui sont dans le foie sous forme de glycogène, et qui sont un carburant qui permet de faire face à un besoin très rapide. C'est ça, surtout le sucre. Et avec la privation de nourriture, ces animaux vont commencer à mobiliser leurs réserves de graisse. Et à partir de ces réserves de graisse, donc des lipides, je crois que tout le monde connaît le mot, fabriquent des corps cétoniques, on dit aujourd'hui des cétones, qui sont des molécules produites au niveau du foie et qui vont notamment remplacer le glucose qui est habituellement la source quasi exclusive de carburant pour notre cerveau. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que ces corps cétoniques, ces cétones, ont aussi de nombreux effets très favorables à l'organisme. Et beaucoup de recherches actuellement sont lancées sur ces molécules.
On y reviendra tout à l'heure. Ce qu'il se passe chez les manchots, est-ce que c'est la même chose chez l'être humain?
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai démarré, et ça remonte à un certain nombre d'années, je croyais... voyant que ces animaux jeûnaient 120 jours, 4 mois, pour se reproduire, et qu'il n'y avait aucune mortalité, qu'ils étaient parfaitement adaptés à cette restriction alimentaire, je me suis dit quand même, 120 jours par rapport à l'homme, où on considère qu'au-delà de 40-50 jours, il y a un certain danger, ils ont des mécanismes que nous n'avons pas. Je me trompais parce que, en fait, ils arrivent à réduire leurs dépenses parce qu'ils se serrent les uns contre les autres, comme tout le monde le sait, ils forment ce qu'on appelle des tortues. Mais sinon, les mécanismes sont exactement les mêmes. Et aujourd'hui, je suis convaincu que si ces mécanismes sont similaires chez l'homme et l'animal, c'est parce que très rapidement dans l'évolution, des mécanismes absolument essentiels d'adaptation à la privation de nourriture se sont installés.
Alors, vous l'avez dit, les corps cétoniques, les cétones sont donc la principale source d'énergie en cas de jeûne. Mais une question fondamentale, comment est-il possible alors de mourir de faim? Quelle est la différence entre quelqu'un qui fait une grève de la faim, par exemple, et qui va exposer sa santé à un certain danger, et le jeûne à visée thérapeutique ou préventive? C'est quoi la différence? Parce que vous me dites que pendant plusieurs jours, on peut tenir sans manger en puisant dans ces fameux corps cétoniques. Mais on peut mourir de faim. Expliquez-nous la différence, Yvan Le Mao.
Alors, nous l'avons montré chez l'animal. Évidemment, on va... C'est une chose qu'on ne peut pas faire pour des raisons éthiques évidentes chez l'homme. Mais chez l'animal, nous l'avons montré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors qu'il y a encore suffisamment de réserves de graisse pour aller chercher la nourriture, un mécanisme à ce moment-là se met en place qui, au niveau du cerveau, donne faim à l'animal. Alors, nous l'avons montré très clairement sur l'animal. Et c'est un peu comme, si vous voulez, sur votre véhicule, vous voyez un signal lumineux qui s'allume, alors que vous avez encore suffisamment de carburant pour aller jusqu'à la prochaine pompe. C'est tout à fait similaire.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Sylvie Gillemant, Thierry de Lestrade, entre la parution du livre et du documentaire de 2013 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en 12 ou 13 ans?
Ben nous, déjà, la raison pour laquelle on a voulu y revenir, faire ce second film, c'est justement que, donc, il a été diffusé 8 fois, il y a eu 10 millions de vues, sur les chiffres en France, Arte, et donc on voyait un engouement sans précédent pour le jeûne, de plus en plus de personnes s'y sont intéressées, des médecins aussi, il faut quand même le dire, et puis, au fil des diffusions, il y avait aussi des petites voix qui ont commencé à s'élever, mais rien n'est prouvé, on ne sait pas, la fonte musculaire, c'est dangereux. On a croisé, lors du deuxième tournage de ce film, on a croisé un médecin français, anesthésiste, qui était parti jeûner en Allemagne, il avait dû traverser la frontière, pour justement jeûner de façon médicalisée, avec un encadrement médical.
Parce que la grande différence, précisons, c'est qu'en Allemagne, il existe 6 hôpitaux publics qui proposent dans leur service de santé intégrative des cures de jeûne médicalement encadrées, et une clinique, une célèbre clinique privée qui propose également des jeûnes encadrés, ce qui n'existe pas en France.
Non, pas encore, et c'est vrai que nous, en fait, quand on voit ce qui se passe en Allemagne, on est très surpris de voir la frilosité, pour ne pas dire plus, peut-être la crispation de certaines autorités, parce que finalement, plus le jeûne a pris de l'ampleur en France, plus il y a eu un intérêt, et on a l'impression que plus les crispations ont été élevées, quoi. Et c'est très surprenant, parce qu'effectivement, donc ce médecin français, il traverse la frontière, il va en Allemagne, lui-même guérit des problèmes de santé, il fait plusieurs cures, et on lui dit, mais vous avez essayé d'en parler à vos collègues en retour? Enfin, il a dit, écoutez, j'ai essayé d'en parler, c'est un blackout total. Enfin, lui, dans son hôpital, il n'a pas réussi. On lui dit, c'est une secte, tu vas perdre tes muscles, tu les retrouveras jamais.
Mais Sylvie Gillemont, Thierry de Lestrade, vous le savez, il y a en France des charlatans du bien-être qui utilisent le jeûne pour appâter des clients, et qui leur proposent d'arrêter, par exemple, leur traitement anti-cancer, et qui leur proposent de jeûner à la place. C'est évidemment extrêmement dangereux, et ce n'est pas évidemment ce que vous montrez dans votre documentaire. Dans votre documentaire, vous montrez les recherches scientifiques solides qui permettent d'accréditer l'idée que le jeûne peut avoir des bienfaits sur un certain nombre de maladies.
Oui,
c'est pas une panacée, hein, vous
non,
dites très bien.
Non, c'est pas miraculeux, et le jeûne, c'est tellement puissant que ça peut aussi provoquer des effets graves. Donc, si on est malade, et ça je le dis, vraiment, si on n'est pas malade, qu'on veut jeûner en prévention quelques jours dans des centres de jeûne en France, il y a plein de gens très sérieux qui font ça très bien. Mais si on est malade, si on prend un hypotenseur, un antidiabétique, eh bien évidemment qu'il faut être encadré médicalement, et c'est la raison pour laquelle peut-être en France il faudrait que le débat puisse être posé, parce qu'effectivement c'est très très déroutant de voir la différence entre deux pays.
Entre l'Allemagne et la France.
Oui.
Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Oui, bonjour.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles. Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Revenir sur ce que vous venez d'évoquer, Ali, c'est-à-dire vers qui s'orienter pour suivre un jeûne thérapeutique quand la médecine française lui tourne le dos, mais que des gourous en tout genre lui ouvrent les bras.
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef à Écran Total. Vers 10h40, il sera l'heure de votre chronique Petite mythologie d'un objet du quotidien.
Eh bien oui, je vais parler de Balzac et de Buzz l'éclair, donc forcément du verre d'eau à boire.
A tout à l'heure.
Grand bien vous fasse.
C'est pas cette campagne qui ne pure, merveille regarde. Tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé.
48 heures de diète. Jamais tué personne, monsieur le commissaire. De plus, c'est excellent pour la santé.
Sur France Inter.
Et ce matin, on se demande quelles sont les nouvelles avancées scientifiques sur le jeûne à visée thérapeutique et préventif, avec Sophie Gillemont et Thierry de Lestrade, qui réalisent un documentaire qui sera diffusé samedi prochain sur Arte. Le jeûne enquête sur un phénomène. Avec nous également Yvon Lemao, chercheur au CNRS et membre de l'Académie des sciences. Et vous avez assuré le conseil scientifique de ce documentaire. Une question d'Anne-Marie, mais vous y avez partiellement répondu juste avant le disque. Y a-t-il des lieux sérieux en France pour pratiquer le jeûne thérapeutique, Thierry de Lestrade?
Malheureusement, il n'y a pas encore de lieu pour pratiquer le jeûne thérapeutique en France. Et j'enlève le sérieux parce que soit c'est possible, soit c'est pas possible. C'est-à-dire encadré par des médecins. Non, en France, si vous n'êtes pas malade, vous pouvez toujours aller jeûner dans des lieux qui font
des jeûnes et randonnées pendant 4-5 jours.
Voilà, et on peut trouver des gens très sérieux, qui le font très bien, qui sont bien formés pour ça.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, est-ce qu'on peut s'arrêter quand même sur la position de la société savante française? Ali parlait tout à l'heure de ce papier, de ce rapport de l'INSERM.
De 2014.
2014.
Je répète, qui indiquait qu'aucune donnée clinique reposant sur des essais méthodologiques rigoureux ne pouvait étayer les bénéfices supposés de cette pratique. Cette pratique, c'est le jeûne à visée thérapeutique.
Il a 10 ans.
En 2014.
Alors justement, en 2023, donc c'est bien plus récent. Cette fois, c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a fait un état des lieux de 90 pages sur les pratiques non conventionnelles et leurs dérives, et qui cite notamment le jeûne thérapeutique, alors aux côtés de la lithothérapie ou de l'aromathérapie, et qui, concernant le jeûne, redit ce que vous avez précisé. Il n'y a pas d'études suffisantes, les indications supposées, la prévention de certaines pathologies, le fait que certaines cures sont dispensées par des non-professionnels de santé. Tout cela sème le doute. Et donc, stop, on n'y va pas. On attend des études. Vous l'avez dit quand même, certaines existent. Donc, de l'autre côté, on va se trouver avec des patients démunis qui, peut-être, vont aller voir leur médecin en disant « Est-ce que vous pouvez me conseiller quelque chose ?» Vous venez de le rappeler, ça n'existe pas. Donc, que font ces patients? Ils vont aller quoi? Sur Internet, tomber sur, effectivement, des pseudo-naturopathes, des gourous, des charlatans, lâcher un nombre conséquent de milliers d'euros pour quelque chose qui n'est absolument pas encadré ni médicalisé.
Et mettre en danger éventuellement leur
absolument.
Santé.
Alors, à défaut, il faut faire quoi? Casser son PEL et aller en Allemagne.
Et aller en Allemagne, voilà.
Je reviens juste sur le rapport de 2023, qui s'appuie sur quoi ce rapport? La question se pose. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez d'études. Or, et on le montre dans le livre et dans le film...
Je rappelle que l'objet de votre documentaire et de votre livre, c'est de partager les nouvelles recherches scientifiques solides sur le jeûne. Le socle de votre projet, c'est la science.
Oui.
Et c'est pour ça que vous êtes adjoint le conseil scientifique d'Yvan Le Mao.
Oui, et sur les 10-15 dernières années, il y a eu un nombre d'études considérables. Après, on pourra toujours dire que les études ne portent pas sur des cohortes énormes, des milliers de patients, comme pour certaines études qui sont financées par les laboratoires pharmaceutiques. Parce que, en fait, pourquoi on trouve des études qui portent sur 100 personnes, mais elles sont multiples. Depuis 10-15 ans, je le répète, elles sont très multiples, que ce soit en Allemagne ou en Italie ou aux États-Unis. C'est parce qu'elles manquent de financement, parce qu'elles ne sont pas, il n'y a pas les labos pharmaceutiques derrière. Donc, mais ces études existent. Et moi, je ne sais pas comment ce rapport et sur quoi est fondé ce rapport de 2023. Ensuite, pour aller quand on souffre d'une maladie chronique, où aller? Effectivement, en France, on ne peut pas.
Mais il faut savoir que des médecins français sont allés en Allemagne. Ils sont allés se former auprès de leurs confrères allemands. Ils savent encadrer les jeunes de façon très sérieuse. Donc, ils ont créé une académie, l'Académie médicale du jeûne. Ils sont une soixantaine de médecins. Donc, les choses sont quand même... On sent que les choses sont quand même en train de bouger. Mais... Certains ont été convoqués par les conseils de l'ordre pour dire « non, c'est pas sérieux ». Peut-être qu'il faut les encourager, peut-être encourager ceux qui veulent encadrer sérieusement la pratique en France pour permettre aux patients français, eux aussi, d'avoir accès aux jeûnes de façon sérieuse, comme en Allemagne.
Et il faut juste rappeler qu'en Allemagne, vous avez cité les hôpitaux universitaires...
Il y a six hôpitaux publics, voilà. Dont l'hôpital, le grand hôpital de la Charité à Berlin.
Oui. Que les cures sont remboursées par le système d'assurance maladie.
Et les listes d'attente de 6 mois.
6 mois. Yvan Le Mao.
Oui, ce qu'il y a de nouveau depuis une dizaine d'années, c'est surtout des travaux qui montrent que, contrairement à cette idée préconçue, l'organisme réduit l'utilisation des protéines. Donc, tout ce qui est dit sur le danger que des protéines corporelles, donc les muscles soient utilisés, se révèle en grande partie faux.
Tiens, écoutons la chercheuse au CNRS et à l'INSERM à Saint-Étienne, Magali Vialon, spécialiste en imagerie par résonance magnétique, IRM. Cette IRM au service de l'étude du muscle cardiaque, du métabolisme musculaire et de la nutrition, et que l'on entend dans votre documentaire.
Du côté des muscles donc, pas de problème. Mais que se passe-t-il au niveau des autres organes? Les analyses montrent que le cerveau, le cœur, l'abdomen, dont le foie, s'adaptent parfaitement au switch métabolique. Quant à la graisse viscérale,
un facteur majeur de risque cardiovasculaire, elle était réduite. Elle était toujours 4 mois après le jeûne.
Ce type d'études scientifiques qui permettent avec des images de démontrer qu'il n'y a aucun impact négatif du jeûne sur nos organes principaux, que ce soit le foie, que ce soit le cœur, que ce soit le cerveau, que ce soit le muscle, ça me semble fondamental parce que ça permet ensuite de remettre le jeûne dans une difficulté qui est uniquement mentale. Il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas de quoi s'angoisser au niveau physiologique par un jeûne thérapeutique. Et ça, on le démontre avec de l'imagerie au plus profond de chacun de nos organes.
Magali Vialon, chercheuse au CNRS à l'Inserm. Yvon Le Mao.
Oui, il s'agit de techniques tout à fait nouvelles et on ne peut pas remettre en cause les résultats obtenus. C'est vraiment très, très démonstratif. Donc je crois qu'il faut la remettre à jour sur la nouvelle information scientifique.
Quelles sont les indications d'un jeûne à visée thérapeutique quand, par exemple, un patient allemand se rend dans l'un des 6 hôpitaux publics dans un centre de santé, dans un service de santé intégrative? Quelles sont les pathologies qui peuvent être soignées par le jeûne thérapeutique? Certaines pathologies cardiaques comme l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, certaines douleurs rhumatoïdes ou articulaires. Ce sont les principales raisons d'aller consulter.
Oui, tout ce qui est inflammatoire, en fait. Le jeûne se révèle un puissant anti-inflammatoire, anti-rhumatismal. Et vraiment, ce qui a été très frappant, enfin, après la réalisation du documentaire, on a continué l'enquête, finalement, pour le livre. Et on a été en relation avec un diabétologue allemand. Et là, pour moi, ça a été vraiment très, très, très fort de ces interviews menées avec lui. Parce que, donc, il s'appelle Peter Schwartz. Il est président de la Fédération internationale du diabète. C'est une très grosse fédération, plus de 140 pays. Quand on va sur le site, on peut lire ces mots glaçants. Dans le monde, une personne meurt toutes les 5 secondes du diabète.
De type 2.
De type 2. Et 3 personnes sur 4 vivent dans des pays à faible revenu, donc n'ont pas forcément accès aux médicaments. Eh bien, Peter Schwartz, il est convaincu par les effets thérapeutiques du jeûne. Depuis 3 ans, il a fait jeûner 800 patients atteints de diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est une contre-indication, il faut bien le dire.
Stricte contre-indication.
Stricte contre-indication, diabète de type 2. Et évidemment, si vous êtes diabétique, que vous entendez l'émission, que vous prenez un médicament, ne vous lancez pas seul dans l'aventure.
Bien sûr, évidemment.
Donc lui, voilà, il encadre et il a des résultats. Il dit que 30% de ses patients, à peu près, refusent, préfèrent prendre des médicaments, parce que c'est un effort. C'est quand même pas, c'est pas anodin, c'est pas facile, forcément. Et 70% accepte et il a des résultats très étonnants avec un suivi très prometteur.
Yvon Le Mao, comment expliquer les vertus anti-inflammatoires du jeûne thérapeutique? Comment ça s'explique?
Par des molécules qui agissent sur notre organisme et des molécules qui, on a parlé tout à l'heure des cétones, qui ne sont produites qu'au cours du jeûne. Nous n'avons pas de production de cétones. Nous commençons à l'avoir après une nuit sans manger, à condition de ne pas faire comme certains, d'aller ouvrir le frigo la nuit. Et ça se prolonge, évidemment. Lorsqu'on jeûne un peu plus longtemps, la quantité de cétones augmente.
Rappelez ce que sont les cétones pour ceux qui prennent en cours.
Pour ceux qui prennent en cours, les cétones, qu'on appelait auparavant les corps cétoniques, sont des molécules qui sont fabriquées, notamment, principalement par notre foie, à partir de nos molécules de graisse, de lipides. Et ces nouvelles molécules sont utilisées par notre cerveau où elles remplacent le glucose comme carburant. Mais on le découvre chaque jour, ont des vertus signalantes, non inflammatoires et qui sont très précieuses et qui montrent l'intérêt du jeûne. Mais encore une fois, tout cela n'est possible. Et c'est évidemment le danger du jeûne. Tout cela n'est possible que lorsqu'il y a, on le comprend bien, des réserves de graisse. Le danger, ce qui fait peur à beaucoup de médecins, c'est ceux qui, étant malades, viennent les trouver. Le grand danger est là, en disant « nous voulons jeûner », alors qu'ils n'ont plus les réserves suffisantes.
Alors, on le disait, il existe encore peu d'études scientifiques sur le jeûne thérapeutique et préventif. Citons cette étude de 2019 de la docteure Françoise Wilhelmi de Toledo et de son équipe de la clinique Buchinger en Allemagne, qui ont suivi 1422 sujets qui ont suivi un régime d'abstinence sur des périodes comprises entre 5 et 20 jours. L'étude a été publiée en ligne par la revue PLOS ONE et cette étude montre une nette amélioration du métabolisme avec une réduction de la pression artérielle, des taux de cholestérol et de la pression sanguine. Est-ce qu'il y a eu depuis 2019 d'autres études comparables sur les bienfaits du jeûne thérapeutique? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été publiées depuis, Sylvie Gillemand?
À Berlin, oui. À Berlin, ils continuent les mêmes études sur l'hypertension, le diabète de type 2. Ça, c'est quand même tout à fait nouveau de se dire... On a montré le film la semaine dernière à Paris, et à la fin de la projection, une jeune femme est venue nous voir. Elle nous a dit, mais moi, je suis médecin, je viens de terminer mes études, et je découvre là qu'une maladie chronique que je pensais irréversible, comme le diabète de type 2, où on est condamné à prendre des médicaments jusqu'à la fin de sa vie. Elle dit, des médecins allemands me disent qu'on peut guérir, mais ça me met la tête totalement à l'envers.
Mais vous avez raison, Sylvie Gillemand, nous consacrons régulièrement des émissions au diabète de type 2 dans cette émission. Il y a de plus en plus d'endocrinologues, de diabétologues qui disent que cette maladie n'est pas vouée à être chronique et on peut la guérir notamment avec une hygiène diététique.
C'est ça, c'est que le jeûne, c'est pas miraculeux. Il ne faut pas croire, je fais une cure de jeûne et hop, je suis guérie.
Ouais,
non.
C'est pas une panacée, il faut le redire. Hein.
Voilà, c'est que, en fait, ça va mettre en route un processus. Je crois que quand on a fait l'effort d'arrêter de manger pendant quelques jours, on réfléchit après à ce qu'on met dans notre corps. Des études ont montré en Allemagne que la moitié des personnes qui ont jeûné, en fait, après, elles adoptent un nouveau mode de vie. Et c'est ça qui fait qu'on peut maintenir les résultats du jeûne. Déjà, il ne faut pas le casser n'importe comment. Si vous pouvez perdre tous les bénéfices si vous mangez n'importe quoi à la sortie du jeûne, ça peut être très dangereux.
Manger de provençal après avoir jeûné pendant 5 jours, oui, effectivement, voilà. C'est pas...
Et c'est vrai que le jeûne, peut-être, peut amorcer un processus. Donc, c'est qu'après avoir fait une période... Et si la maladie chronique est installée depuis longtemps, il faudra peut-être plusieurs cures. Mais après, si vous adoptez un mode de vie sain, vous pouvez guérir de cette maladie chronique. En tout cas, les médecins allemands sont formels.
Yvon Le Mao ?
Oui, ce qui se passe aussi, c'est que certains, après avoir jeûné, reprennent de mauvaises habitudes alimentaires. C'est ce que dit Sylvie. Et derrière, je reviens des États-Unis puisque je suis rentré hier après-midi. Je suis effaré à chaque voyage du nombre d'obèses. Et la principale raison, c'est une nourriture industrielle.
Ultra transformée. Thierry de Lestrade.
Oui, parmi les études, il y a aussi le jeûne à visée préventive. Et une étude qui m'a impressionné, c'est à montrer que quand on fait jeûner un groupe de personnes, des jeûnes de 5 jours sur 6 mois, 3 fois 5 jours sur 6 mois. Voilà, donc ils ont jeûné 15 jours sur 6 mois. Et aujourd'hui, on peut calculer l'âge biologique. Ça a été impossible pendant des années parce que c'est très très compliqué, mais quel est son âge biologique? Donc ils ont calculé l'âge biologique du groupe avant de commencer ces jeûnes. Et au bout des 6 mois, donc au bout des 3 cycles de jeûne, eh bien leur âge biologique avait baissé de 2 ans et demi. On a gagné 2 ans et demi en 6 mois, en 3 jeûnes de 5 jours.
Quelles sont les strictes contre-indications du jeûne à visée thérapeutique ou préventive, Sylvie Gillemand ?
Alors, il y a les troubles alimentaires, bien évidemment.
Anorexie, par exemple.
Voilà, anorexie, boulimie, le diabète de type 1, insuffisance rénale, hyperthyroïdie, grossesse, allaitement. Ça, c'est la liste établie par les médecins allemands.
Et l'âge ?
Oui, et l'âge, sauf si on a commencé depuis très longtemps, puisqu'ils ont un patient en Allemagne là, qui a 90 ans, mais il a commencé il y a 50 ans.
Oui, mais je veux dire le jeûne en croissance.
Oui. Et l'âge, les jeunes,
Les jeunes.
Tiens, Yvon Le Mao, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'autophagie? Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule quand on jeûne pendant 5 jours?
Je crois que c'est Thierry qui peut en parler. Parce qu'il vient, il vient de travailler, enfin bon, je connais bien, bien sûr, mais oui. Il vient d'ajouter à son livre, donc je oui. crois que...
L'autophagie, c'est quoi l'autophagie, c'est assez extraordinaire, c'est quand vous arrêtez de manger, mm-hmm. donc le corps va chercher... à se nourrir sur, et donc à manger, à se manger. Autophagie, ça veut dire se manger soi-même, littéralement. Donc, il va chercher des aliments et au niveau de la cellule, à l'intérieur de la cellule, il va prendre des débris cellulaires, des protéines qui sont abîmées, même des virus ou des bactéries, et il va transformer tous ces débris en énergie. Un élément nouveau, une énergie. Et donc, il fait du recyclage. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et ce qui peut expliquer le fait que, aussi, ça a un effet sur l'âge biologique. C'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on produit des déchets cellulaires. Eh bien, le fait d'arrêter de manger nous permet d'éliminer ces déchets et de faire même des éléments tout neufs.
Mais
le processus de l'autophagie, c'est un processus qui existe toujours. Même si on ne jeûne pas, l'autophagie existe. Mmh. C'est parce qu'on accumule des déchets et donc c'est un processus d'auto-nettoyage de la cellule. Mais il se trouve que lorsqu'on jeûne, ce processus naturel est stimulé. Et c'est ce qui fait dire à Andreas Michelson dans le documentaire, c'est que le jeûne, c'est un puissant mécanisme, c'est comme une chirurgie sans scalpel. Mmh.
Oui, et ce qui se passe, ce que l'on découvre aujourd'hui et ce qui est très très bien documenté, c'est que l'organisme est beaucoup mieux adapté à cette autophagie qu'à l'excès de nourriture. Et le fait d'avoir en permanence un verre de soda à la main, ou comme on le voit dans certains pays, est le principal danger parce qu'il va empêcher la mise en œuvre des mécanismes d'autophagie.
Qu'est-ce que vous avez constaté chez les manchots que vous connaissez par cœur, Yvon Le Mao, de ce point de vue-là, quand ces manchots sont dans une restriction alimentaire de plusieurs dizaines de jours, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là, du point de vue de l'autophagie ?
Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces animaux ne sont pas confrontés à cet excès de nourriture. Et ils passent leur temps... entre jeûner pendant de longues périodes
jusqu'à 100 jours, 120
jours, ouais. en moyenne 4 mois. Mm-hmm. 4 mois de jeûne sur la banquise. Et les plus mauvais manchots que j'ai vus du point de vue de la santé sont ceux qui sont dans le Marineland de Los Angeles. Mm. Parce qu'ils sont nourris par excès. Mm-hmm. Et ils sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus gros que... On ne voit jamais un manchot de plus de 40 kilos. 40 kilos, c'est ce qui va lui permettre de rester un grand sportif, parce qu'il va marcher sur des kilomètres, il va marcher pendant sur 150, 200 kilomètres pour rejoindre la mer libre durant sa période de reproduction. Alors que les manchots que l'on voit dans cette installation de Los Angeles sont nourris... Donc ils ont faim et ils pèsent à peu près 60 kilos, 50-60 kilos et sont à peine capables de se déplacer.
Allez, c'est pas un manchot lui, Éric Chibio. Il est 10h41 et il est l'heure de retrouver sa petite mythologie d'un objet du quotidien.
Ne dit-on pas des objets inanimés ?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Ali Rebéi.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
Sur France Inter.
Alors, mon cher Ali, pardon, en général, vous me lancez, c'est pour ça que
je vous regarde. Vous
changez, d'accord. Eh bien, si j'ai bien compris le début de cette émission, pour rester jeune, il est préférable de se mettre au vert et au vert, car pour paraphraser un slogan célèbre, un vert ça va, ben deux verts ça va aussi. Alors, se mettre au vert d'eau, évidemment, parce que se mettre au vert n'est pas à l'ordre du jour pendant un moment, même si ça peut être le cas à la fin du jeûne. Alors, je lis ces phrases et je les comprends parce que c'est moi qui les ai écrites, mais vous qui les entendez avez peut-être eu un peu plus de mal. Il faut dire que vert, 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 vert et vert font partie d'un corpus d'homonymes remarquables, un des plus remarquables de la langue française. Le vert dont je parle aujourd'hui a donc plusieurs homonymes, mais c'est aussi une métonymie. En l'occurrence, le contenu pour le contenant, puisque boire un verre, c'est boire le contenu d'un verre, et non le verre lui-même, évidemment. Et si je pousse le bouchon de la bouteille un peu plus loin en ce mois de Dry January, l'expression « se mettre au vert » pourrait aussi s'entendre comme une invitation à se mettre au vert, sans alcool ou avec, de toute manière, vous ferez bien ce que vous voudrez, le compte est bon selon les cas, mais toujours avec modération. En parlant de compte, j'ai longtemps cru que dans Cendrillon, la pantoufle qu'elle chaussait pour se rendre au bal du prince était une pantoufle de verre et non de verre. Cela dit, le débat est toujours vivace, hein, si Charles Perrault a bien écrit « pantoufle de verre », Balzac et Anatole France ont fait remarquer qu'il est difficile de danser avec une chaussure de verre. Ils imaginent donc plutôt que Cendrillon portait au pied une pantoufle de verre. Disney, lui, a vite choisi. Dans le film Cendrillon, il est question d'une pantoufle de verre. D'autant que Cendrillon étant l'ami des animaux, on l'imagine mal porter une chaussure de verre, puisque le verre est une fourrure à base de petits gris, un écureuil nordique. Donc ce matin, Ah, vous avez tout compris finalement. J'adopte donc ce matin la chaussure de verre, d'autant qu'elle peut servir de verre plus facilement que la chaussure de verre, voire dans une chaussure, et d'ailleurs relativement courant. C'est une tradition dans certains pays, l'Australie par exemple. Et on peut aussi voir des gens boire dans une chaussure dans quelques films, publicités ou photos, dans une ambiance plus ou moins festive, voire érotique. Alors selon le musée des arts décoratifs, le verre comme récipient remonte à 1500 avant Jésus-Christ et au fur et à mesure des ans, il n'a cessé de changer de forme pour continuer d'exister. Verre à dents, dont on peut douter qu'il fut le premier verre sur Terre. Verre à pied, verre à jambes, verre à eau, verre à vin, verre à cocktail, verre à chaude, verre à tige, verre gobelet, verre gigogne, etc. Si la fonction du verre est simple, l'effort esthétique est louable, hein, c'est ce qui en fait sa singularité, d'autant qu'il est à mille lieues des objets de plus en plus sophistiqués, de plus en plus connectés. Et qu'on se rassure, le verre sera encore là dans 1500 ans, car qui a bu boira. Il suffit d'ailleurs de se souvenir de l'expression de Buzz l'éclair dans Toy Story, vers l'infini et au-delà.
Merci beaucoup Éric Libio. Tous les épisodes de La Petite Mythologie d'un objet du quotidien sont à podcaster sur l'appli Radio France.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, on se demande quelles sont les nouvelles avancées scientifiques sur le jeûne thérapeutique en compagnie des journalistes et réalisateurs Sophie Gillemont et Thierry de Lestrade et avec le scientifique chercheur au CNRS Yvon Lemao. Tiens, comment ça se passe un jeûne à visée thérapeutique quand on se rend en Allemagne dans un hôpital public, dans un service de santé intégrative qui propose ce genre de cure ou dans une clinique privée très connue qui propose également des jeûnes encadrés médicaux? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe en jeûne?
Alors déjà, il y a un bilan de santé au départ pour savoir si vous pouvez jeûner ou pas. Donc il y a des prises de sang, on vérifie tous les paramètres sanguins habituels. Et une fois que vous êtes déclaré apte à jeûner, bien là, le jeûne commence. Et là, on va vous donner 250... Ah oui, déjà, il y a une descente alimentaire. C'est-à-dire que les quelques jours qui précèdent, vous allez arrêter les protéines, le café, l'alcool, tout ça. Après, une fois, il y a une descente alimentaire, donc il y a une journée où on réduit les calories. Et à partir du moment où le jeûne commence, là, vous avez à peu près 250 calories par jour sous forme de bouillon ou de jus de fruits. Et puis, jusqu'à la fin du jeûne.
Pas de jus de fruits industriels, hein, sont des jus de fruits pressés, sans sucre.
Et les bouillons sont avec des bons légumes. Voilà. Et puis, c'est plutôt un bouillon, c'est vraiment un bouillon, il est très clair.
Bouillon clair, oui.
Très, très clair. 250 calories, c'est peu.
C'est pas un velouté de champignons avec de la crème. Hein,
non. Non. Et puis, on vous encourage aussi à faire de l'exercice physique. Ah, voilà. Donc, au moins 2 heures par jour.
Tiens, Yvon Lemao,
L'exercice est absolument essentiel.
Pourquoi ?
Parce que, précisément, notre corps est adapté à l'exercice. Et ce qui est très grave, c'est quand on croit qu'il suffit d'être très attentif à sa nutrition sans prendre en compte la nécessité de l'exercice.
Marie-Laure Zonshine, question, rédactrice en chef à Femmes Actuelles.
Oui, effectivement, sur le jeûne, on a aussi presque des idées reçues ou des contre-intuitions, c'est-à-dire de se dire, je vais partir le matin, je ne vais pas manger. On a tous dit à nos enfants, alors on a bien compris, les enfants ne sont pas concernés, mais ne pars pas l'estomac vide, tu ne vas pas pouvoir te concentrer, tu ne vas pas pouvoir faire ton examen, ou se dire, tiens, je vais me lever le matin à jeun, je vais aller courir, je vais aller faire du vélo, je vais aller faire de la natation. Soi-même, on se restreint en se disant, non, je vais avoir une crise d'hypoglycémie, je peux risquer de faire un malaise, je vais me sentir mal, alors même que vous le dites, et Ali, vous en parliez, il existe effectivement, vous l'avez fait, des possibilités de faire un peu de jeûne et de la randonnée, eh bien non, finalement, le corps réagit, le corps fait face, et on ne tombe pas dans les pommes.
Tout à fait, si on est en bonne santé.
Exactement. Tiens, une question d'Isabelle, question un peu délicate. Isabelle qui nous écrit « Je suis soignée à l'Institut Curie pour un cancer du sein métastasé. Et quand j'ai évoqué l'intérêt du jeûne, l'oncologue m'a dit « Ça vous affamera, mais ça n'affamera pas votre tumeur. » Que comprendre ? Vous avez d'ailleurs, dans votre documentaire, Sylvie Gillement au Thierry de Lestrade, rencontré le professeur Walter Longo, italo-américain, chercheur en gérontologie et biologie cellulaire. Écoutons-le dans cet extrait du documentaire.
Alors qu'au départ, on cherchait à protéger le patient, aujourd'hui, on vise sa guérison. C'est une énorme différence. Et c'est un moment passionnant. Parce qu'on parle à présent de mécanismes d'adaptation à la privation de nourriture. De quoi s'agit-il ? En fait, cette diète imitant le jeûne accule le cancer dans un coin. Le cancer active alors deux ou trois mécanismes de survie, et nous, on utilise des médicaments pour bloquer ces mécanismes. Et ça fonctionne très bien chez les souris.
En recherche constante d'énergie pour proliférer, mais affamée par le jeûne, les cellules cancéreuses activent désespérément certains mécanismes de survie pour capter les nutriments encore disponibles. Ces molécules deviennent alors des cibles pour les traitements anticancers.
Sylvie Gillement, sujet très délicat.
Extrêmement délicat. On avance. Voilà, il y a des études sérieuses. Donc oui, on vient d'entendre Walter Longo qui a mené des études avec un cancérologue, Claudio Vernieri, à Milan. Ils ont mené des études extrêmement prometteuses. On parle dans le film d'une étude menée sur 105 patients, dont 75% avaient des cancers très avancés avec métastases. Et, ils leur ont proposé, ce sont des jeûnes courts. C'est des jeûnes de 5 jours, et c'est avec une diète imitant le jeûne, avec 300 calories par jour.
Et qui ne remplace pas le traitement.
Et qui ne remplace, voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que, et ça il faut le dire, il faut le redire,
faut le
répéter, le marteler.
Non mais il faut le marteler parce qu'il y a, Sylvie Gillement, des charlatans qui incitent à abandonner un traitement anti-cancer au profit d'un jeûne pour soigner le dit cancer, et ces charlatans sont des criminels, il faut le dire. Ce que vous montrez, ce sont des chercheurs qui s'intéressent aux jeunes, mais dans le cadre d'un traitement médicamenteux, une chimiothérapie. Enfin, voilà, c'est ça, il faut le dire de façon très claire.
Avec tous les traitements anti-cancer, et ils sont accompagnés par des médecins. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui... Alors, c'est vrai que l'oncologue qui répond à l'auditrice... Il y a un vrai débat aujourd'hui en France dans la communauté scientifique. Tous les oncologues n'ont pas cette position. Certains, on en a rencontré, proposent des jeûnes très courts pour justement permettre, dans des cas par exemple précis de cancer du sein, certaines patientes ont été encouragées par des oncologues à faire des jeûnes très courts,
avant
deux jours avant, un jour après. Donc vraiment, c'est très très court, c'est très encadré. Et on sait aussi qu'un essai clinique va être lancé bientôt en France sur cancer du sein et jeûne. Mais évidemment, on est encore dans les prémices.
Marie-Laure Zonshein, évidemment, on fuit tous les charlatans qui incitent à abandonner un traitement anti-cancer au profit d'un jeûne.
Oui, absolument, et ça pullule sur Internet.
Ah, oui.
Vous tapez les deux mots « cure jeûne » et vous arrivez sur, effectivement, des pseudo-naturopathes ou des gourous quelconques. On arrive à des dérives sectaires absolument effroyables. Il y a eu d'ailleurs un fait divers tragique d'une femme qui est décédée suite à une cure il y a deux ans, qui souffrait d'un cancer. Et ce qui vient évidemment porter un discrédit absolument total sur tous les travaux scientifiques étayés qui viennent nourrir la recherche sur le jeûne thérapeutique.
Oui. Quand vous dites ça pullule, je ne sais pas si c'est aussi élevé que ça, mais effectivement, on a connaissance de deux cas, deux personnes, voilà, qui ont... Il y a, dans tout mouvement qui se développe, on va trouver... On va appeler des brebis galeuses, mais dans ce cas-là, criminels. Mmh. Effectivement, et ça,
ce sont des criminels.
Et juste sur le cancer, quand même, dans le monde aujourd'hui, les essais thérapeutiques, il y a 2000 personnes qui sont engagées dans des essais thérapeutiques sur le cancer. Donc c'est
une recherche.
Et concomitamment avec les traitements classiques anticancéreux.
Et nous accueillons Guénola. Bonjour Guénola.
Bonjour,
merci. Vous habitez en Bretagne. Bienvenue, Guénola. Alors, votre témoignage.
Grand merci à vous tous. Je suis émue parce que c'est grâce à vous et France Inter et et tous vos intervenants que j'ai pu jeûner 5 fois. Donc la première fois j'avais des acidités gastriques, de toute façon que je mange ou je mange pas, j'avais mal, donc j'ai une personne qui m'a conseillé de jeûner, grâce à votre film, j'ai jeûné, c'était le premier film, donc il y a une dizaine d'années, je sais plus, j'ai jeûné toute seule, j'ai regardé sur internet, j'ai fait attention à bien tester mon urine, j'ai fait attention, mais bon, j'ai jeûné à l'arrache directement sans préparation, et comme je ne savais pas trop, j'ai carrément jeûné à l'eau directement, j'ai vraiment fait beaucoup d'exercices. Je marchais 5 ou 6 kilomètres par jour. Et la difficulté, c'est les 5-6 premiers jours. Après, c'est du bonheur. Après, on n'a pas faim. Après, on est léger. Après, on a toute la journée pour faire ce qu'on veut. On est vraiment... alors, on a un petit peu une baisse de tension artérielle, mais qui est vraiment pas très supportable par rapport au poids de la digestion d'un repas. Si
oui,
je dire.
Bien sûr, Guénola.
La crise d'acidose, donc c'est les 5 premiers jours. Après, il faut vraiment parler de deux choses. Le danger, effectivement, il se réside dans la reprise.
La reprise alimentaire.
La reprise alimentaire, parce que moi j'ai jeûné donc 10 jours, 7 jours et ensuite 21 jours, avec une année d'intervalle. Et la fois où j'ai jeûné 21 jours, c'est parce que j'avais des calcifications cette calcification énorme. Et du coup, je me suis dit, j'ai déjà jeûné, j'ai qu'à faire, on verra bien. Et toutes les calcifications sont parties. Le radiologue m'a dit, c'est extrêmement rare, mais vous n'avez plus rien. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus rien.
Merci beaucoup, Guénola, pour votre témoignage. Alors évidemment, si des auditeurs souhaitent jeûner avec une visée thérapeutique, c'est compliqué en France. Il faut peut-être aller en Allemagne, consulter dans l'un des 6 hôpitaux publics allemands ou dans une clinique privée médicalisée type Buchinger, hors de prix, hélas, pour le commun des mortels. Donc voilà. En tout cas, je conseille vraiment votre documentaire, Thierry de Lestrade et Sophie Gillemand, qui sera diffusé samedi à 22h25. Le jeûne enquête sur un phénomène avec le conseil scientifique d'Yvon Lemao. Et puis je précise que vous sortez également l'édition revue et augmentée de votre livre Le Jeûne, une nouvelle voie thérapeutique aux éditions La Découverte et Arte Éditions. Et merci Marie-Laure Sunshine et Eric Libio.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.